Nous allons reprendre l'épître de Paul, deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 5. Chapitre 5, nous reprenons notre lecture au verset 11. Nous étions arrêtés au verset 10, le tribunal de Christ, et nous reprenons verset 11 jusqu'à la fin du chapitre. Je ne vais pas trop insister sur le début de cette péricope, de ce passage, là où, en somme, l'apôtre Paul revient un peu sur son différend avec certains hommes, certains faux docteurs qui avaient pénétré dans l'assemblée de Corinthe et qui portaient sur lui les jugements que nous avons déjà dit. Alors c'est pour cela que dans le verset 11 par exemple, il dit « Nous cherchons à convaincre, à persuader les hommes qu'il faut persuader par des arguments humains. Dieu nous connaît, j'espère que dans vos consciences, vous qui êtes vraiment membres de l'Assemblée, vous nous connaissez aussi. » Je n'insisterai pas, je prendrai seulement ce qui a valeur actuelle pour nous, car dans toute parole, toute épître, tout passage de l'Écriture, même s'il y a une adresse directe à un événement ou à des personnes du moment, dans cette adresse, même dans cette parole, motivée par une circonstance localisée dans le temps, cependant, il y a pour nous enseignement. Voilà l'un des aspects du miracle de la parole de Dieu. Puisqu'il faut comparaître devant le tribunal de Christ, ce que l'apôtre vient de dire et que nous avons étudié hier, il nous est utile de connaître la crainte du Seigneur. Il faut avoir la crainte du Seigneur, non pas une peur, bien qu'il soit parlé, nous l'avons vu hier aussi, de tremblement. Il est utile de connaître la crainte du Seigneur, qui est le juge des plus secrètes actions ou des pensées les plus intimes, et juge aussi de toutes les paroles. Il est juge de tout, et les éléments de son jugement seront d'une véracité terrible, si je puis dire, n'est-ce pas ? Parce que rien ne sera caché. Le Seigneur a dit, par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. Ce qui n'est pas incompatible avec cette autre assertion de Jésus, celui qui croit en moi est directement passé de la mort à la vie et ne vient pas en jugement. Mais ici, n'est-ce pas, par tes paroles tu seras justifié, par tes paroles tu seras condamné, ce qui veut dire tes paroles qui auront été entendues, enregistrées et qui apparaîtront au moment du jugement devant le tribunal de Christ, montreront, manifesteront elles-mêmes suffisamment si la grâce de Dieu a été opérante en toi. Ce n'est pas la peine que tu dis j'ai été chrétien. On verra si la grâce de Dieu a vraiment changé ta vie, changé ton cœur, et si tu as manifesté ce changement. Les paroles sont notamment un test que retiendra le Seigneur. Pensons à cela intelligemment, chers amis. Pensons à cela, nous avons besoin d'eux dans les milieux évangéliques. Nous risquons de nous endormir. Et Paul voit bien dans les Romains, d'ailleurs, qu'il y a certaine somnolence. Pourquoi ? Parce que, peut-être nous entendons dire toujours que nous sommes sauvés, que nous serons enlevés quand le Seigneur viendra. Ce serait beau. Mais as-tu pensé au tribunal de Christ ? As-tu pensé que l'héritage réservé aux saints est situé dans la lumière, et que c'est dans la lumière qu'il faut que tu ailles le recueillir, cet héritage? Il n'est pas situé dans l'obscurité, dans les ténèbres, dans la lumière. Et il faut que tu ailles, toi, dans la lumière. Et le temps que le Seigneur te donne maintenant, c'est un temps pour te préparer à cet héritage, au royaume de Dieu. Cette crainte est nécessaire, et attention, ce n'est pas l'assurance du salut qui la supprime. J'ai entendu ça encore, que, chers amis, prenons garde aux pensées qui peuvent nous venir, des pensées qui ne sont pas bonnes, laissons-nous inspirer par le Seigneur. Quand on se sert très maladroitement de cette parole, l'amour bannit la crainte. Alors il n'y a plus de crainte, il n'y a plus de crainte, on ne craint plus rien, puis on fait n'importe quoi. Puis on parle, et puis on est léger, on n'est pas respectueux, on n'est pas sérieux devant le Seigneur, dans les réunions notamment. La crainte de l'Éternel, ce n'est pas l'assurance du salut qui l'a détruit. Si le Saint-Esprit, je parle de la vraie assurance du salut, donnée par le Saint-Esprit qui, je le rappelais hier, dit à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, eh bien, cette assurance-là, nous l'avons par le Seigneur, mais loin de détruire la crainte du Seigneur, elle va au contraire nous inciter à la crainte du Seigneur, à la crainte filiale, hein, la crainte du Seigneur. Cette crainte doit d'ailleurs elle-même inspirer tous les sentiments et la conduite des chrétiens sous le regard de Dieu qui sonde les cœurs et les reins. Et j'en viendrai maintenant au verset 13 qui demande une petite explication. L'apôtre ici, toujours un peu face à ses contradicteurs, à ses adversaires, si je suis hors de sens, c'est pour Dieu. Et si je suis de bon sens, c'est pour vous. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, il y avait des hommes qui tiraient gloire, comme dans le verset 12 précédent le rappelle l'apôtre, ils tiraient gloire de ce qui était dans les apparences et non dans le cœur. Ils jugeaient par l'extérieur, par les apparences, ces gens-là. Ils n'étaient pas vraiment, n'est-ce pas, des chrétiens. Et pour quelques-uns, Paul a pu paraître hors de sens. Par quoi? Par quel côté? Bon, par sa sévérité peut-être, par son zèle, par ses moments d'extase aussi. L'apôtre Paul a certainement eu au milieu de l'Église des moments d'extase. Peut-être a-t-il parlé en langue, quoiqu'il disait de ne pas parler en langue s'il n'y a pas d'interprétation. Bon, enfin, il a pu avoir ses moments d'extase. Et tout cela était uniquement pour le service de Dieu. Les adversaires disaient, il est hors de sens, regardez comment il se comporte. Il est déchaîné, c'est terrible. Puis il se met à... il est exalté, etc. J'ai pu vous paraître hors de sens. C'était pour Dieu. Si au contraire, Paul a paru calme, doux, modéré, comme un homme de raison saine, c'était pour vous, pour l'Église. C'était pour l'Église. Car tout s'explique, nous dit ici l'apôtre, par l'amour de Christ qui nous presse. C'est l'amour de Christ. L'amour de Christ, il entend ici l'amour venu de Christ, et non pas notre amour pour Christ. La suite du passage le montre. Enfin, l'amour de Christ nous presse parce que nous estimons que si un seul est mort pour nous, tous sont donc morts. En résumé, sommes-nous sévères et tranchants, veut dire l'apôtre? Eh bien, en cela, nous servons Dieu. Sommes-nous doux et modérés? C'est pour vous aider, c'est pour vous rendre service à vous, membres de l'Église, et vous entraîner à l'amour de Christ. J'accepte donc d'être un insensé pour certains, car si je le suis, c'est pour Dieu, et puis si je parais sensé à d'autres, eh bien, sachez que là, alors, je m'efforce de vous être utile. Et nous arrivons aux versets 14 et 15, qui ont une portée, alors, très étendue, et qui nous intéressent beaucoup, puisqu'ils touchent au cœur même de la doctrine du salut. car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous sont donc morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. La mort expiatoire de Christ fait passer l'homme de la foi, l'homme de foi, de la mort à la vie, et lui épargne, s'il persévère, bien sûr, la condamnation éternelle. Mais pour cela, la mort de Christ doit entraîner la mort de l'homme naturel. La mort de Christ est faite pour amener la mort de l'homme naturel, non pas la mort de son corps, la mort de l'homme naturel, du vieil homme, c'est-à-dire de tout ce qui, dans l'homme de foi, faisait précédemment l'erreur et l'aveuglement de son cœur. Mort avec Christ, devenu une même plante par la conformité à sa mort, dira l'apôtre dans Romains 6. Mourir à soi-même, selon l'expression que vous connaissez, ou mourir au péché, Romains 6, c'est quoi? Eh bien, c'est subir une épuration par la destruction intérieure de tout ce qui nous faisait vivre dans la vanité, la vaine manière de vivre. Tout ce qui nous faisait vivre dans la vanité, c'est-à-dire dans une atmosphère de vanité, et la vanité c'est tout ce qui se dissipe, qui n'aboutit à rien, qui n'a aucune durée, aucune valeur. L'idée de vanité se trouve dans l'image d'une fumée qui s'échappe et qui se dissipe dans l'atmosphère. Il n'y a plus rien. Voilà la vanité. Eh bien donc, mourir au péché ou mourir à soi-même, c'était subir une épuration, mais comment? Par la destruction, donc par la mort, n'est-ce pas, intérieure, de tout ce qui nous faisait vivre dans la vanité, dans le péché et dans la mort éternelle. Le cœur étant renouvelé, régénéré, les forces du mal doivent avoir été détruites. Chez le chrétien, les sources de son cœur, d'où provenait le mal, et je me réfère à la parole du Seigneur Jésus, tout ce qui souille l'homme sort de son cœur. Eh bien, ces sources qui souillaient l'homme doivent être taries. La mort de Christ, n'est-ce pas, les a aveuglées, ces sources-là. C'est la mort à la volonté propre de l'homme, c'est-à-dire à la volonté de la chair, c'est la mort à ses impulsions, à ses désirs. Ainsi, ceux qui sont passés par cette mort avec Christ, et par lui et par Christ, ne vivent plus de la même manière qu'autrefois. Ils ne vivent plus pour eux-mêmes, mais avec et pour Christ. Christ s'est donné, par sa vie sur la terre et par sa mort sur la croix, tout entier à l'obéissance à Dieu son Père. Il s'est voué, il s'est donné. C'était son grand travail, ça a été de restaurer dans cette nature humaine qu'il a prise l'obéissance qui avait été entièrement détruite par le péché d'Adam. Plus d'obéissance, la chair était incapable d'obéissance, eh bien, il restaure la pleine obéissance à Dieu son Père. Il y a donc, en sa personne sainte, et selon une parfaite justice, rétablissement de l'obéissance en l'homme, obéissance abolie par le premier Adam. Lui, le deuxième Adam, reprend cette nature humaine révoltée, une chair semblable au péché, il tue la révolte, il rétablit l'obéissance, et cela dans sa vie, sur la terre, n'est-ce pas, dans sa lutte, autant que dans sa mort expiatoire et surtout la mort expiatoire du péché. Ça, c'est un règlement avec la justice du Père. Mais l'obéissance, il a souffert. Par toutes les choses qu'il a souffertes, il a rétabli une pleine obéissance. Il faut voir, n'est-ce pas cela, savoir comment notre Seigneur et Maître nous a sauvés. Unis à lui par une foi vivante, les membres de son Église voient s'accomplir en eux le fruit de Christ. Son fruit, c'est-à-dire la reproduction de son obéissance à Dieu, la reproduction de sa victoire, si bien que sa mort devient la mort de tous. Sa vie de résurrection devient la vie de tous. Ben, voilà ce que nous expose l'apôtre ici. Il y a reproduction dans l'homme de foi, l'homme régénéré, de l'obéissance de Christ, reproduction de la victoire de Christ avec la force que cela comporte, et si bien que la mort de Christ, c'est la mort de tous, comme le dit Paul, la vie de Christ, c'est la vie de tous. Ceux qui, par l'action conjointe de la foi et de la foi allant quérir la grâce de Dieu, comme disait Calvin, la foi va quérir la grâce de Dieu, eh bien, ceux qui, par l'action conjointe de la foi et de la grâce, sont crucifiés avec Christ, se trouvent affranchis de la tyrannie de l'égoïsme et du péché, et ils peuvent vivre véritablement. Ils peuvent jouir de la vie véritable, la puissance de la vie impérissable du Christ ressuscité étant pour eux source de leur vie nouvelle. Nous lirons Romains 14, 7, 9. 14, 7. En effet, nul de nous ne vit pour lui-même, et nul ne meurt pour lui-même. L'apôtre veut dire ici, n'est-ce pas, ça ne nous intéresse pas, ça. Quelqu'un qui reste incrédule, incroyant, et qui vit pour lui-même, qui meurt pour lui-même, c'est pas ça que nous disons, c'est pas ça notre propos, c'est pas ça notre étude, veut dire Paul, n'est-ce pas. Nul de nous ne vit pour lui-même, et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur. Nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourons, nous mourons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Car Christ est mort, et il a vécu, afin de dominer sur les morts et sur les vivants. Cette domination, pas une domination qu'il faut voir sous la forme du règne à venir. Non, pas du tout. Cette domination, c'est une domination actuelle. Le Seigneur, l'Esprit, maintenant, domine, si nous le laissons dominer, par la foi, parce qu'il ne s'impose pas, mais selon l'amour, il domine. Si nous avons ce lien d'amour, il domine, par conséquent, sur nous, sur notre vie, il domine sur les vivants et sur les morts. Et Galates 2:20, qui est un passage bien connu, si j'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, c'est-à-dire c'est sa vie qui se manifeste en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, dans le corps, eh bien je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même pour moi. Voilà ce que, en somme, dans deux petits versets brefs, hein, sous des formules, disons, très brèves, nous dit ici l'apôtre. Il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Et puis, après, l'apôtre va nous dire au verset 16, Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair, et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Nous ne nous connaissons plus selon la chair, nous ne connaissons personne selon la chair. Il veut parler là des chrétiens, les uns vis-à-vis des autres. Nous ne connaissons personne selon la chair. Et qu'est-ce que c'est que connaître quelqu'un selon la chair? Eh bien, on peut donner trois aspects qui vont montrer ce qu'est cette connaissance selon la chair. Le premier est celui-ci. Connaître selon la chair, c'est connaître selon la position extérieure de quelqu'un. Selon son extérieur. Par exemple, d'abord, sa position sociale, si vous voulez, ce qu'il est dans la société, il est élevé ou il est insignifiant, il est riche ou il est pauvre. Selon aussi sa personne vue de l'extérieur, il est brillant, par exemple, en parole, en attitude, il fait impression, il est intelligent, ou alors, au contraire, il est simple et effacé. Et puis aussi, selon son aspect, l'aspect de sa personne, son visage, il est beau ou il ne l'est pas, il a du charme ou il n'en a pas, n'est-ce pas? Il a quelquefois aussi, comme on dit, de l'entre-gens ou il n'en a pas. Hein, alors les gens aiment assez les personnes qui ont de l'entre-gens. Cela dans le monde, n'est-ce pas? Voyez-vous, connaître selon la chair, c'est déjà ça. C'est déjà ça qui est supprimé pour les chrétiens. Bon. Deuxième aspect, connaître selon la chair, c'est connaître selon les dispositions morales de quelqu'un. On sent chez quelqu'un des dispositions morales qui sont toujours agréables, plaisantes, n'est-ce pas? Ce quelqu'un est avenant, ce quelqu'un est serviable, etc. Alors, c'est agréable, n'est-ce pas? C'est agréable. On a toute aisance dans l'approche que nous faisons de cette personne. Elle est plaisante et volontiers nous l'aimons. Le Seigneur nous a dit d'ailleurs, si vous aimez vos amis, vous ne faites rien de plus que les païens. Hein, ça c'est une pente naturelle. C'est facile d'aimer les personnes serviables, aimables, sympathiques. C'est les dispositions morales. Alors, ça, c'est supprimé aussi, ça ne veut pas dire que nous ne devons pas être sympathiques aux autres, c'est pas cela, mais nous ne regardons pas essentiellement à cela. Et enfin, troisième aspect, connaître selon la chair, c'est connaître par les sentiments humains, c'est-à-dire par l'affectivité. On aime quelqu'un, ça ne s'explique pas, on est en amitié avec quelqu'un, on se trouve bien en sa présence, on est lié, comme David et Jonathan, par exemple, dans la Bible, on est en bonne amitié et on aime se rapprocher de nos amis, des personnes avec qui on est en amitié, on aime par l'âme. Ah, mes amis, il y a là un écueil que je ne peux pas manquer de souligner devant vous. Aimer par l'âme, c'est aimer par l'âme. Et cela fait du tort à l'Église, chers amis. Hein? Se rapprocher de les uns des autres uniquement selon des courants d'amitié. On se plaît bien ensemble, on s'embâche dans la maison de l'un, dans la maison de l'autre, on fait des repas ensemble, on se plaît bien, on a un peu les mêmes goûts, les mêmes manières de voir, de penser. Alors, on se trouve rapprochés, on s'aime bien, on se plaît, on s'embrasse quelquefois, n'est-ce pas? Tout cela, c'est l'affectivité. C'est sur le plan de l'âme. Et puis alors, les personnes vers lesquelles nous ne sommes pas portés par, justement, cette affectivité, au contraire, il y a même le contraire, n'est-ce pas, d'un courant affectif favorable, il y a le courant affectif défavorable, eh bien, lorsque c'est le cas, n'est-ce pas, même s'ils sont membres de l'Église, on ne les connaît pas, on ne les voit pas, on n'a pas de relation avec eux. Chers amis, c'est affreux, ça! est affreux, et vous le reconnaîtrez, est affreux devant le Seigneur. Alors il ne faut absolument pas ça. Et c'est ce que nous dit Paul ici. Nous ne connaissons personne selon la chair. Autrement dit, tout cela disparaît aux yeux du disciple accompli. Il ne voit plus en ses frères et en ses sœurs que la vie nouvelle avec ses fruits. Il voit des enfants de Dieu autour de lui. Il voit leur vie nouvelle, les fruits de leur vie. Et s'il voit, parce qu'on ne peut pas manquer de le voir aussi, s'il voit en eux réapparition du vieil homme ou du péché, eh bien, il les regarde comme d'anciennes puissances vaincues, comme un feu qui va s'éteindre parce qu'il n'a plus d'aliment. Il les regarde, ces choses, comme les dernières ombres avant le plein soleil de la vie de justice. Voyez-vous, la vue, n'est-ce pas, que nous avons à voir. Nous allons voir des aspérités chez les uns, chez les autres, pour ne pas manquer de le voir. Il faut d'abord voir les siennes, bien entendu, n'est-ce pas, la poutre, avant de voir la paille. Bon, mais nous ne pouvons pas manquer de remarquer chez un frère, une sœur, n'est-ce pas, tel manquement, on les remarque même bien mieux que les siens propres, n'est-ce pas. Alors, nous pouvons pas. L'Écriture nous dit elle-même, si tu vois que ton frère a péché, ou a péché contre toi, et tu vois qu'il a péché, il y a quelque chose à faire, bien entendu. Mais surtout pas à le juger, à le condamner, mais surtout pas, n'est-ce pas, après à dire, oh, celui-là, c'est un inconverti. On ne sait pas s'il est converti, il est peut-être un converti, n'est-ce pas, il n'est pas converti, vraiment, etc. Ça, non. Notez qu'il y a des personnes qui auront fait l'expérience de la conversion et qui, par un retour en arrière, hélas, parce qu'ils n'auront pas lutté, parce qu'ils n'auront pas vaincu, parce qu'ils s'abandonneront, ils seront mous, oisifs, ils ne se préoccuperont pas de leur âme, ils ne garderont pas leur âme, alors ceux-là vont progressivement retourner en arrière, l'ennemi s'y emploiera et ils présenteront à nouveau les caractères de l'homme naturel. Peut-être même des caractères accusés de l'homme naturel. Parce que le diable, lui, mettra une loupe devant. Et non seulement il mettra une loupe devant ses aspérités, mais pour que nous les voyons grossies, mais en outre, il voudra que ses aspérités soient plus prononcées encore qu'autrefois. Parce qu'il est content d'avoir fait tomber un enfant de Dieu, un chrétien. Et alors, nous, attention dans nos appréciations, dans nos jugements. Il est possible que ce frère ou que cette sœur qui présente les caractères de la vie, de la vaine manière de vivre, de la vie d'autrefois, qui est charnel, il a un tempérament toujours très apparent, un caractère avec lequel il est difficile de composer. Alors, évidemment, n'est-ce pas, on se dit, mais c'est pas possible, cette personne-là, elle est inconvertie. C'est peut-être pas vrai. Elle a pu être convertie. Je sais, il est possible que, aussi, comme nous le disions, n'est-ce pas, ces jours-ci, ce soit quelqu'un qui se soit tenu dans le mimétisme, dans l'approche du royaume de Dieu sans entrer dedans, pas dans le mimétisme ou dans le parasitisme chrétien, se trouvant bien dans le milieu, vivant en somme des autres, se laissant un peu porter par les autres. C'est possible aussi toutes ces situations-là. Mais ça peut être quelqu'un qui ait vraiment fait une expérience, mais une expérience qui l'ait laissé dans l'enfance et qui ait fait de lui précisément ce que Paul appelle dans 1 Corinthiens 3 un chrétien charnel. Enfin, il est charnel. Alors nous voyons, n'est-ce pas, l'exposition de cette vie, n'est-ce pas, avec ses caractères charnels. Alors, nous le disons, il est inconverti. Méfiez-vous! Vous n'avez pas le droit de dire cela. Vous n'avez pas le droit. C'est un jugement, ça. Un jugement contre lequel Dieu peut employer sa sévérité. Nous n'avons pas le droit de dire cela. Bah, méfions-nous, soyons sur nos gardes. Bien sûr, c'est, je vous l'accorde, c'est une chose regrettable, infiniment regrettable. Il faut alors, nous dit l'Écriture, prier pour celui-là ou celle-là. Il faut prier pour le ramener de la mauvaise voie dans laquelle il est engagé, ou de sa faiblesse. Mais vous ne savez pas si Christ n'est pas réellement mort pour lui ou pour elle. Vous ne le savez pas, n'est-ce pas? Vous ne le savez pas, vous ne pouvez pas toujours le savoir. Il y a des situations sur lesquelles nous ne pouvons pas nous prononcer. Évidemment, quelqu'un qui est vraiment un converti du monde, qui n'a jamais fait d'expérience, c'est assez net. Mais je vous dis, dans l'Église, ça n'est pas toujours bien net. Alors méfions-nous de cela. Nous ne connaissons personne selon la chair. Nous voyons autour de nous des enfants de Dieu en cours d'expérience, comme nous le sommes nous-mêmes, et ils peuvent être en retard, ou ils peuvent avoir reculé, mais, n'est-ce pas, nous regardons en eux ces manifestations regrettables encore d'un état charnel ou du péché comme les dernières puissances du mal qui sont vaincues. Et nous devons aider à la manifestation définitive de cette victoire. Voilà notre attitude vis-à-vis des chrétiens. Nous ne connaissons personne selon la chair, mais selon l'esprit. Et l'apôtre de nous dire que nous ne connaissons plus Christ selon la chair. Il fait une application de ce principe à Christ. Christ, bien entendu, lui, n'a pas laissé d'ombre, mais sa vie a été enveloppée dans une pleine lumière. Mais il y a des hommes, voilà ce que veut dire l'apôtre, qui l'ont vu, qui ont vu son visage, et qui ont contemplé sa personne, et qui ont même été réjouis de l'entendre et de voir à l'œuvre sa puissance. Et ce n'est pas cela qui a fait de ces hommes, de ces témoins oculaires, si vous voulez, ce n'est pas cela qui a fait d'eux des témoins du Seigneur. En tout cas, ce n'est pas cela qui leur a procuré avantage et bénédiction. Non. Les amis, il y a quantité d'hommes qui ont vu le Christ. Il y en a beaucoup. Il y a même quantité de disciples qui l'ont suivi. Il y en avait 120. À la Pentecôte, n'est-ce pas? Mais il y en avait bien plus que ça, qui l'ont vu, qui l'ont suivi, qui ont même admiré ce qu'il était, et qui n'ont jamais trouvé la vie. Vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Eh bien, vous mourrez dans vos péchés. Et malheureusement, cette parole a été fatale à bien des contemporains du Seigneur Jésus qui l'ont vu. Et même les apôtres et les autres disciples, d'avoir contemplé le Seigneur Jésus, de l'avoir suivi, de l'avoir entendu, de s'être réjoui, d'avoir peut-être été transporté par sa parole à certains moments, cela n'a pas fait d'eux des témoins. La preuve, c'est qu'au jour de son arrestation, il n'y en a plus un seul. Il n'y a plus personne. Il n'y en a pas un pour venir avec courage, même en exposant sa vie, devant le tribunal, dire « Moi, j'ai connu cet homme, j'ai entendu cet homme, et je puis témoigner en sa faveur, ce qu'il a dit est bien, ce qu'il a fait est magnifique, il a fait du bien partout où il est passé. » Personne, pas un, même pas Pierre, qui croyait pouvoir le faire, et qui avait prétendu le faire. Pas un seul. Ils ne sont pas devenus ses témoins. Et au lendemain de sa résurrection, où les trouve-t-on? À la pêche. Ils sont retournés à la pêche. Hein? Ils ne sont vraiment pas devenus des témoins du Seigneur. Et ils le sont devenus le jour de la Pentecôte. Par l'Esprit. Par l'action de l'Esprit. c'est l'effusion du Saint-Esprit sur eux qui leur a donné ce nerf spirituel, cette énergie, cette transformation de toute leur faiblesse en une force pour Dieu. Le jour de la Pentecôte, ils sont devenus ses témoins. Alors ce jour-là, Pierre s'en va face au Sanhédrin et dire « Jugez-vous-même ! Vaut-il mieux que nous écoutions des hommes plutôt que d'écouter Dieu et de servir Dieu ? Eh bien, nous choisissons Dieu. Et ce n'est pas vous que nous écoutons et que nous servirons, c'est Dieu. Voilà, n'est-ce pas ? Vous voyez que le Seigneur, l'Esprit, nous ne connaissons personne. Si nous avons connu Christ selon la chair, si certains l'ont connu, eh bien, c'est fini cela, et il faut que ce soit fini. Jésus avait dit, il vous est avantageux que je m'en aille. C'est-à-dire que vous ne me voyez plus. J'ai été visible sur la terre, vous m'avez vu pendant plusieurs années, vous m'avez vu mourir sur la croix, vous m'avez vu ressusciter, maintenant la vue qui était nécessaire, c'est fini maintenant. Il vous est avantageux que je m'en aille. Et si je ne m'en allais pas, je ne pourrais pas vous envoyer le paraclet, le consolateur, le Saint-Esprit. Et maintenant, ce dont vous avez besoin, c'est du Saint-Esprit. Ma présence n'est plus bonne maintenant pour vous sur la terre, ma présence visible, physique, c'est le temps qu'elle disparaisse. Mais maintenant, c'est le temps qu'il y ait l'Esprit. Et la foi a besoin d'une exception entière de ce qui peut s'apparenter à la vue. La foi suppose par conséquent qu'il n'y ait rien qui soit la vue, c'est-à-dire qui soit la preuve tangible. Tout doit être par foi. Il n'y a que sous la foi, que par l'action de la foi, que le cœur humain puisse être changé. Des hommes ne peuvent jamais, jamais, vous entendez bien, être changés par la vue, par la démonstration, par la rhétorique, par tout ce que vous voudrez, n'est-ce pas ? Et aujourd'hui, notre temps est en refait encore cette folle et tragique expérience de vouloir, à la force du Saint-Esprit, encore substituer des moyens que j'appelle carrément des moyens charnels, des moyens de preuve, des moyens de démonstration, d'ensemble, de puissance. Non ! Le christianisme n'avance pas avec ça, il recule. Seul le Seigneur l'Esprit, comme dans cette même épître l'appelle l'apôtre Paul, le Seigneur, c'est l'Esprit, le Seigneur l'Esprit, seul. Et la force du Saint-Esprit, où se trouve la pleine volonté de Dieu, alors là, cette force du Saint-Esprit qui remue les cœurs, qui suscite la foi des cœurs, amène les transformations qui sont à la base des changements de la vie nouvelle, de la transformation des hommes en hommes nouveaux. Voilà, chers amis, ce qu'il faut bien que nous sachions. Mais les deux phases de la vie de Christ, je parle de sa vie terrestre et visible, et cette phase actuelle du Christ qui est l'Esprit et le chef de l'Église, les deux phases sont inséparables. Dans une étude sur le corps de Christ, je crois l'avoir montré, n'est-ce pas, sont inséparables. Le Christ que l'on a vu en chair, le Christ qui a parlé, qui a marché, qui a montré son regard, son visage, qui a lutté, souffert à Gethsémané, qui a été crucifié sur la croix, eh bien, ce Christ-là, il est maintenant toujours là, mais il est le Seigneur, l'Esprit, et le Christ que l'on a vu sur la terre, le Christ crucifié, c'est lui qui a engendré le corps de Christ, qu'on appelle quelquefois mystique, mais qui n'est visible maintenant que par vous, que par une multitude d'hommes. Nous qui sommes beaucoup, nous qui sommes une foule, nous formons un sol. Et ce sol s'appelle Christ. Oui, c'est merveilleux, il faut, n'est-ce pas, connaître toutes ces choses et les méditer profondément. Ensuite, l'apôtre nous dira au verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. » Il est une nouvelle créature. Le grec a deux sens. Le mot grec qui est là, traduit par créature, il peut se traduire tout aussi bien par création. Ils sont une nouvelle création. Et sans doute, le mot s'apparente mieux tant avec la prophétie de l'Ancien Testament qu'avec celle du Nouveau Testament. Nouveau Testament, je fais allusion surtout à Apocalypse 21:5, où nous lisons « Et celui qui était assis sur le trône dit « Voici, je fais toutes choses nouvelles » et il dit « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables » et il me dit « C'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, à celui qui a soif, je donnerai la source de l'eau de la vie gratuitement, celui qui vaincra héritera ces choses, je serai son Dieu, il sera mon fils, la nouvelle création. Ce que Dieu a en vue, c'est une nouvelle création, non pas à partir de la poussière de la terre, de la matière minérale brute, mais à partir d'une matière brute, une autre matière brute, qui est l'homme pécheur. L'homme pécheur, c'est la matière brute dont Dieu se sert pour faire une nouvelle création, un plan supérieur, parce que ce plan-là est appelé à disparaître, à mourir. Alors il prend ce déchet. L'homme brut, l'homme pécheur, c'est un déchet. Un déchet qui était bon pour la mort. Alors il prend ça comme une matière première. Et par une création, par un pouvoir créateur, vous avez été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Alors, il reprend cette matière brute, les hommes pécheurs, et il en fait une nouvelle humanité, un seul homme nouveau, et dans l'homme nouveau, il y a une multitude, un seul homme nouveau, créé en Dieu, n'est-ce pas, par Dieu, selon la justice et la vérité. La nouvelle création est déjà maintenant intérieurement formée dans le chrétien. Il y a en lui, en somme, la seconde création. Voilà le sens du passage que nous avons ici. La vie naturelle, qui est la proie privilégiée du péché, c'est le milieu du péché, la vie naturelle de l'homme. Le péché est tout à l'aise là-dedans. La puissance du péché fait ce qu'elle veut, n'est-ce pas ? Elle est sur son terrain. L'homme naturel, c'est le terrain du péché. Alors, cette vie naturelle a été détruite dans la mort avec Christ, nous a dit l'apôtre précédemment, et Dieu a créé par son esprit en Christ une vie nouvelle aux manifestations, dont les manifestations sont opposées à celles de l'homme naturel, du vieil homme. Ce terrain brut, ce terrain qui était tellement offert au péché, qui s'y trouve si bien à l'aise et qui prolifère tant et tant, n'est-ce pas, sur ce terreau-là, l'homme naturel, eh bien, alors là, le Dieu est venu et par son Fils, il a donc fait naître une vie nouvelle dont les manifestations sont tout à fait à l'opposé de ce qu'elles étaient précédemment, et manifestation, j'entends pensée, les affections, les désirs, les besoins, les attachements, qui sont maintenant tournés vers ce qui est en haut et non plus vers ce qui est en bas, les attachements, les joies, les peines, les craintes, les espérances, l'amour, etc. Tout cela est changé, est une nouvelle création, appartient à une nouvelle création, c'est apparu sur le terreau, ce vil terreau qu'est l'ensemble de l'humanité pécheresse, n'est-ce pas ? Et puis, voilà, une humanité nouvelle qui apparaît avec ça, n'est-ce pas ? Et c'est ça que Dieu a fait, c'est cela que Dieu veut, et ceux qui ne manifestent pas ou qui ne prennent pas soin de veiller à leur voix pour que précisément ces manifestations de la vie nouvelle apparaissent, ceux-là se livrent à une dégradation, à un grand risque, mes amis, et ils font grand mal à l'Église. Il faut que nous sachions. Nous avons une responsabilité. Mais, disons ceci, c'est que l'œuvre de Dieu, lorsqu'elle est commencée, lorsqu'elle est commencée, elle dispose d'une force qui va lui permettre d'aller jusqu'à la perfection. Il y a en vous qui avez connu le Seigneur, qui le connaissait, qui avait été régénéré, même si depuis cette régénération, vous avez à déplorer pas mal d'erreurs et d'occasions de péché, même si vous sentez que vous ne manifestez pas pleinement et vous êtes encore loin peut-être de le faire, manifestez pas la vie nouvelle, ne vous découragez pas, mais reprenez marche, car sachez une chose, c'est que ce que Dieu a commencé, il l'achèvera. Il a la force de l'achever, n'est-ce pas? N'allez pas regarder votre faiblesse d'homme naturel, c'est pas de là que la force va sortir, c'est la force viendra d'en haut par Dieu. Ce que Dieu a commencé, il a la force de l'achever. Donc, pas de désespoir, mais une claire vue sur la situation. Sans faiblesse, il faut se voir tel qu'on est, avec ses insuffisances, ses manquements, sa faiblesse, n'est-ce pas? Et puis, s'en remettre à Dieu, et se remettre soi-même en marche, par la foi, pour que Dieu puisse rapidement achever ce qu'il a commencé. Et alors, l'apôtre de nous dire enfin, et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par le Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Tout vient de Dieu qui est à l'origine de la vie nouvelle, et il a tout d'abord placé la réconciliation du croyant avec lui, par le Christ. Il a d'abord mis cela, une réconciliation, c'était à la base ça. Et ici, l'apôtre Paul rappelle, parce que la réconciliation, c'était la fin de la séparation avec Dieu. Le pécheur, Adam, s'est coupé avec Dieu, et cette coupure, cette séparation, a sévi sur toute l'histoire de l'humanité. Nous naissons ici séparés avec Dieu. Alors, cette séparation, il faut la révoquer. Il faut, au contraire, une réconciliation. Il faut renouer le lien avec Dieu par Jésus-Christ, n'est-ce pas? Et c'est à la base, cela. Il faut être réconcilié. Et c'est cette réconciliation que le ministère de Paul, notamment, des autres, et le ministère qui s'exerce aujourd'hui dans les églises, que le ministère a pour objet de répandre parmi les hommes en les appelant à la foi, et cela se fait, comment? Par une parole de la réconciliation. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Il ne nous a pas donné une besace pour la remplir de toutes sortes de littérature et d'objets de piété. Il ne nous a pas donné quatre roues pour que nous allions vite jusqu'aux extrémités de la terre. Il nous a donné une chose, la parole de la réconciliation, qui est une parole de Dieu avec une puissance dirigée vers cela, vers la réconciliation, et c'est cette parole qu'il faut faire retentir à partir de cœurs qui sont vraiment tout au Seigneur, et cela parce les hommes qui ont été choisis et envoyés par Dieu. Enfin, le verset 21, pardon, je dois dire qu'au verset 20, il y a aussi une fin qu'il faut mentionner. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. On pourrait penser que cela s'adresse à des gens qui sont encore inconvertis, ils ne sont pas réconciliés, non pas du tout. Quand l'apôtre Paul nous dit de la part de Dieu aussi, soyez transformés, ça ne veut pas dire qu'on ne l'est pas. Mais ça veut dire qu'il faut manifester cette transformation. Ici, il faut manifester la réconciliation. Ne faites plus rien qui soit hors de la réconciliation, qui appartienne au temps où vous étiez séparés. Et puis alors, le verset 21, ici, l'apôtre rappelle comment Dieu a opéré une substitution par son Fils. Dieu a puni, en effet, le péché des hommes, non pas sur eux, car alors, il les aurait abandonnés, perdus, et parce que la seule issue du péché, c'est la mort éternelle, et par conséquent, s'il avait puni les hommes, il ne pouvait les punir que comme cela, et ben, il ne sauvait personne. Donc, il n'a pas puni le pécheur, il lui a demandé de se repentir, il lui a demandé de porter son regard sur celui qui sauve, hein, comme sur le serpent qui était au bout de la perche dans le désert. Il l'a fait, il a donc donné son fils pour que celui-ci devienne péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Autrement dit, le Christ prend notre péché, la responsabilité du péché, il prend la condamnation qui assortit le péché, et puis, à la place, il nous donne une justice obtenue de la justice de Dieu. Une justice, c'est ce qu'on appelle une justification, bien sûr, action de justifier, mais c'est mieux encore de parler d'une justice. Il nous couvre d'un manteau de justice, comme disait Isaïe le prophète, n'est-ce pas, et qu'il a obtenu de la justice du Père. Et cela, n'est-ce pas, par sa mort. La mort de Jésus est donc expiatoire, c'est lui qui se trouve couvert du péché, sans en être personnellement souillé, mais il est couvert du péché, il le porte, il en a la responsabilité, la condamnation éternelle est sur lui. Mes amis, vous n'avez pas mesuré cela, c'est que la condamnation éternelle à laquelle le péché ne peut manquer d'aboutir, cette condamnation éternelle est sur le Seigneur. Et la preuve, c'est que l'Épître aux Hébreux nous dit qu'il a été sauvé de la mort par larmes et grands cris, par une lutte. Il a été sauvé de la mort et à cause de sa parfaite obéissance. Il y avait deux choses contradictoires dans l'expérience du Christ. Il y avait ce péché dont il était entièrement et réellement couvert. C'est pas quelque chose de factice, c'est pas une image, c'est une réalité. Il a pris sur lui nos iniquités, Isaïe le disait déjà. Il est couvert, il a la responsabilité, il va à la mort éternelle. C'est impensable. Il a été sauvé de la mort, non pas de la mort physique, parce qu'il est bien mort, vraiment sur la croix. Mais il a été sauvé de la mort éternelle. Et Dieu a pu faire cela, n'est-ce pas? Il est venu avec tout le péché qui devait l'entraîner pour toujours jusque dans les enfers. Mais il a été sauvé de cette mort par sa parfaite obéissance. Et il a lutté, lutté avec larmes, avec grands cris. Nous dit l'Épître aux Hébreux, il a lutté pour cela, et Dieu l'a exaucé, et l'a sauvé de la mort éternelle, mais le péché n'en a pas été au moins englouti dans la mort, notre péché englouti dans la mort, et notre condamnation, ben, elle est restée affichée à la croix. Elle est restée clouée là, à la croix, n'est-ce pas? Voyez-vous, elle est restée là. Voilà. Ce qu'a fait le Seigneur. Et alors, nous nous retrouvons unis à lui, recevant le fruit de ce travail, nous retrouvons comment? Couverts d'une justice. Nous étions couverts d'un manteau sale et dégoûtant, nous avions un turban sale, et nous sommes vêtus de neuf. Nous sommes retrouvés dans la justice. Alors, chers amis, après cela, dites-moi, nous allons peut-être encore, comme Paul le dit dans les Romains, nous allons peut-être encore maintenant pratiquer le péché, n'est-ce pas? Nous allons peut-être encore faire ce que nous voulons. Ah, chers amis, comme il faut que ce soit vraiment dans la croix et dans cette vue claire portée sur la croix de Jésus, sur ses souffrances, sur sa lutte victorieuse, que vous trouviez l'énergie de l'amour, que vous trouviez la force, véritablement, de maintenant ne plus offenser Dieu, de ne plus pécher. Mes amis, comment laver de cette manière, sauver un si grand prix? Maintenant, nous nous irions nous vautrer encore dans le péché, dans la désobéissance, nous laisserions ça s'amorcer entre nous, des animosités, des mauvais mots, nous n'aurions pas la plus petite manifestation de charité, d'amour à l'égard de notre frère, de notre sœur, mais ce serait une honte, chers amis. Je dis, ce serait une honte. Attention, il faut que, voyant vraiment ce grand prix auquel Dieu nous a sauvés, cette substitution qu'il a faite, nous puissions, nous, par la force de Christ, dominer ces choses, et ne plus regarder comme un sujet de discorde, d'animosité, la plus petite bêtise, la plus petite fétille, une position prise par l'un ou par l'autre, un mot dit par lui ou par l'autre. Oh, chers amis, nous ne pouvons pas donc être véritablement ces saints, ces consacrés que Dieu veut trouver dans l'Église de son Fils. Pensons à ces choses. Amen.